Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Ève Harel, est en studio avec nous. Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Bon lundi matin.
Bon lundi, tout le monde.
Tu as passé une belle fin de semaine?
Oui, très belle.
Oui? Ouais. Excellent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas de climat toxique chez vous?
Non.
Rien, non? Tout est beau? Ça commence à être la norme après l'Hôtel de Ville de Québec. Maintenant, c'est autour de l'Hôtel de Ville du côté de Lévis. T'en penses quoi de toute cette situation-là, puis le soi-disant climat toxique qui règne dans ces endroits-là?
Bien là, chaque situation va être unique, chaque hôtel de ville, chaque dynamique de entre les conseillers municipaux puis leur maire est unique. Donc, c'est difficile d'avoir un commentaire général pour tous, mais est-ce qu'il y en a qui profitent là, de cette vague-là, comme la vague des MeToo, pour finalement sortir publiquement, puis qu'en fait, on va réaliser que c'est plus épidémique encore qu'on pensait, peut-être. Cela étant dit, ça parle au moins d'une chose, c'est qu'on personnalise beaucoup en politique et on fait beaucoup de partisanerie. On a l'impression que parfois les campagnes électorales n'arrêtent pas. Donc, c'est comme si on est... Parce qu'en campagne électorale, nos adversaires, on les combat férocement. Et c'est comme si, une fois que la campagne électorale est terminée puis que les gens ont été élus... Mais moi, j'ai l'impression, puis il y en a, d'ailleurs, hier, ce qu'on entendait, à Tout le monde en parle, de l'ancienne mairesse de Gatineau, oui. C'est ce qu'elle disait. Elle disait, moi, j'étais naïve, je pensais faire de la politique en collégialité, je pensais rassembler les gens autour de grands enjeux puis de projets. Mais si finalement, tout le monde continue de faire de la partisanerie puis être très militant, très campé dans ses positions, bien là, on a des élus qui ne travaillent pas ensemble dans le bien-être commun. On a des élus qui travaillent peut-être plus pour leur cause que pour leurs citoyens. Et c'est là, j'ai l'impression, moi, c'est ma lecture des choses, j'ai l'impression que les gens travaillent beaucoup pour leur cause, pour leur parti, pour leur idéologie, beaucoup plus que d'abord et avant tout pour les citoyens qui les ont élus.
Jacinthe Ève, sais-tu, là, en 2024, on va appeler ça climat toxique, mais est-ce que c'est juste le climat normal qu'il y a toujours eu, puis qu'en 2024, on dit « OK, assez, c'est assez, là, c'est pas de même qu'on devrait gérer ça, on veut passer à autre chose ». Tu sais ce que je veux dire, sais-tu, maintenant, on l'appelle... climat toxique, mais c'est-tu pas mal le climat qui régnait toujours, mettons, dans les hôtels de ville?
Bien, c'est ça. C'est la grande question. Les gens qui ont fait de la politique depuis toujours, nos aînés de génération le disent, ça a toujours été rough en politique, ouais. Ça a toujours joué rough. J'ai quand même l'impression qu'on a rendu les choses beaucoup plus personnalisées. On s'attaque plus aux personnes qu'aux idées. Moi, je suivais la politique. J'ai grandi dans la politique. Puis quand j'étais jeune, oui, ça jouait rough, mais j'ai l'impression qu'on discutait des idées. On se chamaillait, on discutait fort, on argumentait fort, mais sur les idées.
Là, on s'attaquait aux idées, pas à la personne.
Oui. Okay. Là, on parle, on personnalise beaucoup. Donc, on s'attaque aux personnes. C'est un ci, c'est un ça, c'est une ci, c'est une ça. Donc, je pense que ça vient vraiment rendre les choses plus toxiques qu'avant.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'Alexandre Fallu raconte dans le Journal de Québec, que c'est très personnalisé à son âge et non pas à son idéologie. Est-ce qu'on est en quelque part responsable de ça? Puis je m'explique, t'sais. On a un Claude Villeneuve, chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville, qui a tenté de travailler en collégialité avec Bruno Marchand sur le dossier du tramway. Puis on lui disait, oui, mais M. Villeneuve, voyons, sortez de là, vous ressemblez bien trop à Bruno Marchand, vous ne ferez jamais élire.
Oui, ben, c'est sûr que, oui, effectivement, s'il prend pas une vraie posture d'opposition surtout, ben là, il se fait reprocher d'être vendu finalement. Puis, ben oui, c'est le grand défi finalement de trouver sa posture respectable. Mais je pense que justement, si on fait des débats d'idées, d'abord et avant tout, puis que il y a peut-être aussi une question de parti politique en milieu municipal. Moi, je pose l'hypothèse, si on n'avait plus de parti politique au niveau municipal, et que chaque conseiller municipal représentait son quartier ou son arrondissement plutôt que son parti.
Ce qui est le cas dans bien des places déjà, les plus petites villes. Mm-hmm.
Oui, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on aurait peut-être un travail de concertation puis de collégialité qui est facilité, parce qu'à place d'adopter la ligne de parti, ben tu protèges tes citoyens, tu représentes tes citoyens, puis parfois tu te rallies à la cause du maire, parfois non, mais au moins, t'es pas nécessairement campé dans la position, ben moi, j'appuie jamais le maire parce que je suis dans le groupe de l'opposition.
Ben, c'est un bon point, parce que dans la première année de la mairie sous Bruno Marchand, il était minoritaire, puis on n'avait pas autant de chicanes qu'on a là au conseil municipal.
Oui. Donc, c'est à bien réfléchir. J'espère que la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, va se pencher sur cette question-là. Là, elle a demandé aux directions régionales des Affaires municipales d'aller voir les municipalités puis de finalement faire un état de situation rapidement. Mais moi, j'aimerais qu'elle aille plus loin puis qu'elle regarde ça aussi, ce système de partis politiques-là, qui n'a peut-être pas sa place en municipal.
Jacinthe, allons-y maintenant avec le provincial. Le ministre Dubé a un nouveau gros dossier sur la table. Bon, on va dire un autre. soit celui de la couverture du territoire par les ambulances. Penses-tu qu'il va réussir? C'est un gros dossier, ça.
Oui, c'est une belle enquête qui a été menée par le groupe Québécois qui a recensé finalement que dans 112 municipalités du Québec, des municipalités qui ont plus de 10 000 habitants, finalement, les délais moyens de réponse en ambulance ne répondent pas aux objectifs qu'on devrait avoir parce qu'on n'a pas d'objectif de réponse ambulancier au Québec. Mais selon ce qu'on devrait avoir, si on avait des objectifs de réponse, bien, on répond, c'est beaucoup trop long la réponse ambulancière. Donc, c'est un dossier de plus qui tombe sur le dossier la table du ministre de la Santé. Ce qui est particulier, ils ont analysé les délais de réponse moyens ambulanciers sur un an dans les municipalités de plus de 10 000 habitants. Donc, c'est une étude sérieuse. C'est des chiffres qui font peur parce que c'est pas beau. Il y a des municipalités où est-ce que les réponses prennent plus que 15 minutes avant d'avoir une réponse ambulancière. Donc, moi, ce qui me préoccupe là-dedans, c'est pourquoi ça prenait une enquête journalistique pour avoir un dossier de plus sur le bureau du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, finalement, se retrouve avec cette patate chaude-là de plus. Mais comment se fait-il que ça a pris une enquête journalistique pour regarder les statistiques sur un an? Moi, je le dis en riant un peu dans ma voix, mais je me disais, aïe, aïe, on n'a pas de tableau de bord au Québec, on surveille pas
c'est ça!
Mais surtout que le gouvernement avait demandé une étude il y a une couple d'années. On a reçu les résultats. Puis on a fait, on a les résultats. Puis on n'a pas mis d'objectif en place. Ça sert à quoi de commander? Puis ça peut être vrai pour ce dossier-là, mais pour plein d'autres dossiers aussi. Ça sert à quoi de commander une étude si on ne fait rien avec? C'est-tu juste pour dire, on a fait quelque chose, on a demandé une étude?
Oui, effectivement, on dirait qu'on attend qu'il y ait un mort ou un cas crève-cœur, parce qu'il y en a eu de toute façon des décès, là, fait qu'on n'attend même pas qu'il y ait un mort. Il y en a eu des décès à cause d'une ambulance qui est arrivée trop tardivement. Mais on attend qu'il y ait un cas hautement médiatisé pour dire, là, un peu comme l'affaire de la fillette de Granby pour la DPJ, on va faire quelque chose, on va vraiment faire une commission. De toute façon, notre réflexe, c'est toujours de faire des commissions plutôt que de dire, on va tout de suite mettre en place des solutions.
Plutôt qu'agir, c'est ça.
Nos professionnels sur le terrain, ils doivent avoir une bonne idée de ce que ça prend comme solution.
Non, mais c'est drôle ce que tu dis, parce que la machine est tellement grosse, mais pas capable de prendre action par elle-même. Ça prend une commission qui vient dire quoi faire.
Ouais.
Puis dans ce cas-là, des fois, les actions sont même pas faites. Tu sais, je suis regardé au niveau du service à un ambulancier. En 2002, avec les fusions municipales, on a créé un schéma de couverture de risque pour le service des incendies qui fonctionne super bien.
Ouais.
Puis c'est un calcul mathématique. Ouais. J'ai tant d'habitants, j'ai tant de bâtisses qui sont problématiques, j'ai tant de densité, fait que j'ai besoin de pompiers à temps par... besoin de tant de pompiers par nombre de résidents, puis on fait des casernes. Fait que comment ça, on fait pas ça pour le service ambulancier? Ils sont là depuis 2002 en incendie.
C'est un parallèle extraordinaire que tu viens de faire. Il est très pertinent, effectivement. Oui. On pourrait faire le même genre de calcul puis mettre ça en place. Puis après ça, on arrête de dire qu'il manque d'ambulanciers ou on a une pénurie de main-d'œuvre. On met les budgets en place qu'il faut pour avoir les ambulances présentes sur le territoire. Puis au pire aller, on ouvre les cohortes plus grandes dans les cégeps pour former plus de paramédics puis d'ambulanciers. Là.
Ouais. Je dis souvent que le mot qu'on essaie d'éviter dans le système de la santé, c'est « attente ». Puis là, on vient d'ajouter quelque chose d'autre sous la bannière de ce mot-là qu'on essaie d'éviter. Il y a l'attente aux urgences, il y a l'attente pour la liste des médecins de famille, il y a de l'attente maintenant pour l'ambulance à la maison quand on l'appelle.
Ouais.
Le mot qui est en gros puis en majuscule qu'on essaie de rayer, c'est « attente ».
Oui. Je me souviens d'attendre.
Ouais.
J'adore.
Ça a quand même été une belle semaine pour le ministre Dubé, qui sort gagnant de la dernière semaine avec des gains significatifs avec les médecins. On parle des tâches administratives, les infirmières provenant d'agences, la reconnaissance de l'ancienneté aussi. Est-ce qu'il va réussir sa réforme en santé?
Il y a des bonnes affaires qu'il fait, c'est certain. Il y a une conscience très claire de ce qui doit être fait, mais parfois, il se heurte à des corporations médicales, des syndicats... Ou la machine qui est très grosse, mais c'est sûr qu'ils viennent de faire des actions très intéressantes. Justement, la non-nécessité là, pour les médecins de faire le formulaire, par exemple, pour pouvoir placer ou recommander le placement de quelqu'un en CHSLD. Ouais. Il y a déjà des travailleurs sociaux qui faisaient ce formulaire-là. Donc là, les médecins n'ont plus besoin de faire ça. Il y a aussi tous les patients qui sont suivis par un médecin en CNESST qui, finalement, le médecin va pouvoir déterminer, bon, t'es en arrêt de travail pour telle blessure à la colonne vertébrale. Avant, la CNESST disait, tu dois revoir ton médecin dans 4 semaines. Là, le médecin va dire, moi, je sais que dans 4 semaines, tu n'iras pas mieux. Mm-hmm. Donc, je vais te revoir dans 8 semaines. Donc, on évite le rendez-vous médical obligatoire qui était prescrit par la CNESST.
La perte de temps.
Ben oui, tout à fait, parce que ce rendez-vous-là qui n'était pas nécessaire au niveau médical, mais là, le médecin va avoir la pleine autonomie de décider quand est-ce que je revois mon patient et ça ne bloquera pas une plage horaire supplémentaire. Ouais. Donc, il y a des bonnes choses comme ça qui sont faites avec courage de la part du ministre Dubé, il faut le souligner.
Je te fais un wrap-up de plusieurs choses. On a appris que la CAQ allait avoir un budget déficitaire jusqu'en 2030 avec les nouvelles négociations puis comment ça se trame, puis que la très, 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 très grande majorité des souverainistes est maintenant de retour au PQ. Comment qu'elle va faire la CAQ pour se faire réélire en 2026?
Bien, ça devient de plus en plus difficile, hein, parce que là, il reste à voir est-ce que les gens sont préoccupés par le budget, est-ce qu'ils sont préoccupés par l'atteinte du déficit zéro, parce que là, on ne retournera pas à l'équilibre budgétaire comme on s'était fixé. Il faut donner à César ce qui revient à César. Le Parti libéral du Québec nous avait donné des finances publiques en très bon état, avait finalement redressé nos finances publiques. Puis en 2018, lorsque la CAQ a pris le pouvoir, elle bénéficiait de finances publiques très saines. On avait l'équilibre budgétaire. Alors là, est-ce qu'on est sur une pente descendante, une pente glissante? Reporter ça à 2030, c'est loin, ça fait mal. Ça reste à voir si les électeurs sont interpellés par ça.
Oui, puis en même temps, je me pose la question, puis c'est bon que tu arrives avec le Parti libéral, parce que le Parti québécois, on sait c'est quoi? C'est la souveraineté, c'est des programmes sociaux, puis c'est vraiment ça, puis c'est l'économie par l'intérieur. T'sais. Les libéraux, les PME, développement économique, austérité des finances. La CAQ, c'est quoi? Je ne sais pas encore c'est quoi la CAQ.
Comme l'identité.
Oui. Ouais. C'est quoi l'identité de la CAQ?
Bien, au niveau économique, c'est sûr qu'ils ont toujours dit qu'ils voulaient créer de la richesse pour se doter de meilleurs programmes sociaux, puis pour absorber finalement ou assurer un filet de sécurité, un filet social. La situation a été difficile pour eux et ils n'ont pas réussi à démontrer que finalement l'équilibre budgétaire puis la création de richesse, on ne l'a pas vu, la création de richesse. On a vu l'importance, de faire des baisses d'impôts pour les Québécois dans le dernier budget, mais effectivement, la CAQ, on ne sait pas trop. C'est une boussole peut-être qui se laisse aller un peu plus au gré du goût du jour.
Ouais, c'est ça. C'est l'improvisation, dans le fond.
Ben d'ailleurs, Jacinthe-Ève, comme ça, tu sais, question droite au but comme dernière question. François Legault, est-il encore le meilleur chef pour la CAQ, selon toi?
C'est probablement une question qui commence à se poser à l'interne. Hein? Il y a des jeux de coulisses déjà depuis un bon moment à la Coalition Avenir Québec pour savoir qui va reprendre les rangs de la Coalition Avenir Québec quand M. Legault annoncera son départ. Mais là, avec cette pente descendante-là que vit la CAQ, avec ce budget annoncé qui ne sera pas à la hauteur de ce qu'il aurait souhaité présenter, parce qu'une chose est sûre, on sait que c'est un gouvernement qui avait l'intention d'avoir le portefeuille bien équilibré, d'avoir une saine gestion des finances publiques puis un bien contrôle sur nos finances publiques. Donc, on sait que c'était leur intention, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Plus toutes les bavures qu'on voit, est-ce que M. Legault annoncera son départ éventuellement? Je ne le sais pas. Ouais. Mais une chose est sûre, ça fait travailler plus fort à l'interne les futurs aspirants au poste de chef de la CAQ. Donc, ça va jouer encore plus du coude et mes contacts me disent que ça joue déjà très serré à l'interne. Ouais. Il y a des coalitions à l'intérieur même de la coalition.
Jacinthe-Ève Harel, c'est notre chroniqueuse politique, comme toujours. Un immense plaisir. Merci d'être passé nous voir ce matin.
Merci.
Après la pause, entre autres, à Rage Against le matin, on va se faire un troisième et dernier finaliste pour le concours Oshiaga du jour. Et on va parler du climat toxique qu'il y aurait à l'Hôtel de Ville de Lévis avec le conseiller de Saint-Étienne, Serge Bonin. On s'arrête.